Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche en deux parties. Un premier épisode est diffusé aujourd'hui et le second le sera demain. Les cartes blanches sont nos épisodes consacrés à un travail particulièrement remarquable d'une ou d'un journaliste du territoire, pas forcément publié par l'un de nos partenaires. Et nous allons prendre le temps d'évoquer un livre qui s'appelle « Mauvais traitement ». Son sous-titre dit tout ou presque « Pourquoi les femmes sont mal soignées ». Ce livre paru aux éditions du Seuil, vous l'avez coécrit avec Delphine Bauer. Bonjour Ariane Puccini.
Bonjour Jean.
Vous êtes journaliste indépendante, administratrice du Club de la Presse de Bordeaux. D'abord une question toute simple, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Alors cette enquête, on l'a lancée il y a 3 ans. Et avec Delphine Bauer, ma collègue, nous avions l'intention de travailler sur la santé des femmes. C'était une époque où quelques affaires avaient déjà émergé, à savoir les violences obstétricales, mais aussi émergeait aussi la question de différences, par exemple dans le diagnostic des femmes par rapport au diagnostic que l'on pratique sur les hommes. Et donc avec Delphine Bauer, on souhaitait travailler sur cette question de la prise en charge de la santé des femmes qui est différenciée du fait justement de leur genre, et on souhaitait travailler en dehors de la question purement reproductive à laquelle on limite souvent la question de la santé de la femme, des femmes. Et donc nous avons entrepris nos premières recherches et sommes tombés sur cette information qui nous a tout de suite alertés, à savoir que les femmes présentent plus d'effets secondaires que les hommes lorsqu'elles prennent un médicament. Et donc, en fait, on a commencé nos premières investigations et il s'est avéré qu'en fait, c'était un angle tout à fait intéressant parce qu'en fait, en France, en tout cas, les 9 consultations sur 10 se concluent par une prescription médicamenteuse. Et donc, en fait, le médicament se trouve au cœur de notre système de santé. Et donc, on s'est dit que ce devait être forcément un moyen assez global pour mesurer en fait la prise en charge des femmes dans notre système de santé.
Il me faut un docteur. Docteur. Il me faut un docteur. Oh.
Ce sentiment que vous aviez d'une moins bonne prise en charge de la santé des femmes par rapport aux hommes, de quelle manière vous avez tenté de l'étayer, de confirmer cette impression ? Comment avez-vous donné corps à l'imperceptible, pour reprendre l'expression, qui est aussi le titre de la première de vos 3 grandes parties dans ce livre ?
Alors c'est vrai que le premier challenge de cette enquête, ça a été de lever une invisibilité. À savoir que c'est nous-mêmes d'ailleurs qui sommes journalistes, on n'avait jamais remarqué à quel point les femmes étaient si nombreuses parmi les victimes des effets secondaires des médicaments. Quand on prend tous les scandales qui émaillent l'histoire de l'industrie pharmaceutique, on se rend compte que c'est les principaux scandales du thamidolide en passant par le distilbène jusqu'au Mediator, qui est l'un des derniers scandales les plus retentissants, les femmes y occupent une place très particulière parce qu'elles y sont majoritaires. Et donc le premier challenge, ça a été de confirmer cette impression par les chiffres. Alors il se trouve qu'en France, ce sujet n'a pas suscité des travaux de recherche très nombreux. Il y a eu une étude en 98 qui a été réalisée, mais depuis rien d'autre n'a été conduit, alors qu'ailleurs les chercheurs se sont penchés sur cette question, que ce soit aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, en Allemagne, partout, enfin dans de nombreux pays. En tout cas, la question a suscité des interrogations de la part des scientifiques. Et donc, on a été en charge, on a cherché ces chiffres qui mettraient en évidence ce phénomène-là. Et il se trouve que Uppsala, à Uppsala, il y a le Centre mondial de la pharmacovigilance. Et eux collectent toutes les remontées des effets secondaires des médicaments dans tous les pays membres de l'OMS. Et c'est ainsi qu'en fait, on a pu constater, et des chercheuses en fait, ont constaté que 60% des effets secondaires dans le monde sont rapportés par des femmes, et en France, c'est 56% des effets secondaires qui sont rapportés par des femmes. Et donc en fait, à partir de là, en fait, on a essayé de comprendre pourquoi il y a une telle différence. On a aussi travaillé sur, à partir du data journalisme, on a croisé des données de la sécurité sociale avec une liste de médicaments qui est établie par la revue indépendante Prescrire, des médicaments dangereux ou à écarter. Et en fait, on a constaté aussi que les femmes étaient très nombreuses, majoritaires parmi les patients qui consommaient des médicaments dangereux.
On comprend donc que ceci a été votre point de départ. Et de quelle manière avez-vous procédé pour poursuivre vos investigations ?
À partir de là, en fait, on a essayé de chercher à savoir quelles étaient les causes de cette surexposition. Et en fait, on a dégagé des causes biologiques, c'est-à-dire que très objectivement, les médicaments sont conçus pour les hommes, c'est-à-dire que les femmes sont écartées ou trop peu représentées dans les effets, dans les essais cliniques, dans lors de la conception des médicaments. Et donc, on ne prend pas en compte les différences biologiques parce que les hommes et les femmes n'assimilent pas les médicaments de la même façon. Et puis aussi, du coup, avec notre premier constat aussi que les femmes consommaient beaucoup de médicaments dangereux, on s'est demandé mais quelles étaient les causes de cette exposition à ces produits, à ces substances, soit inutiles, soit dangereuses. Et donc, on est allé chercher du côté des prescriptions et donc aussi plutôt du côté d'un cadre social parce que les femmes ne sont pas plus malades que les hommes. Et donc, il y a quelque chose qui, derrière les habitudes de prescription, pouvait expliquer toute cette surexposition des femmes. Et donc, en fait, effectivement, on en est venu à interroger plus la question du genre, c'est-à-dire la place qu'occupe la femme dans la société, qui fait on pourrait leur prescrire des médicaments pour rester plus jeune, pour rester plus mince, pour ne pas être par exemple pas présenter une pilosité disgracieuse, pour être toujours de bonne humeur, pour prendre en charge la contraception. En fait, voilà, finalement, la société aussi pousse les femmes à prendre des médicaments plus de manière plus fréquente, mais aussi prendre des médicaments plus dangereux.
Je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui...
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un consensus médical?
Alors, la question de la prise en charge de la santé des femmes et le fait qu'elles soient pas forcément aussi bien soignées que les patients masculins, c'est vraiment une question qui effectivement émerge depuis quelques années. Et avec Delphine Bauer, on a fait le constat en fait que cette question vraisemblablement émerge en même temps que les rangs des médecins et des chercheurs se féminisent. Et en fait, c'est pas seulement une impression sur notre enquête. Bon, c'est vrai que en travaillant sur ce sujet, bien malgré nous, en fait, à vouloir chercher ces réponses-là, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait que des femmes chercheuses qui répondaient à nos questions. Donc, c'était assez surprenant de se retourner sur ce constat après avoir fini notre enquête. C'est vrai que aussi d'un point de vue scientifique, le point de vue des femmes, il a été démontré que le point de vue des femmes apportait un éclairage nouveau sur les enjeux divers et variés. Mais en tout cas pour la santé des femmes, effectivement, qu'elles soient du genre féminin, permet de soulever des nouvelles questions. C'est vrai que c'était assez surprenant quand on entendait par exemple une chercheuse qui travaille notamment sur les questions d'exposition des femmes enceintes aux médicaments. C'est une question qui est vraiment très très nouvelle, puisqu'enfin, à l'échelle de la recherche médicale, c'est assez nouveau puisque ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'on s'intéresse à ces questions-là. Et donc cette chercheuse qui travaillait, qui se lançait comme une pionnière sur le sujet, lorsqu'elle annonçait son sujet d'étude à des collègues masculins, on lui répondait mais pourquoi les femmes enceintes ne prennent pas de médicaments, elles sont enceintes, elles prennent pas de médicaments, alors qu'en fait aujourd'hui il y a une majorité de femmes, on a plus de 70% de femmes enceintes qui prennent des médicaments. Et quand on regarde aussi toujours aujourd'hui dans l'équipe qui compose, ou même les interlocuteurs qui composent tous les congrès sur ces sujets-là, on retrouve une majorité de femmes, par exemple, qui s'inquiètent de l'exposition des femmes aux médicaments. Donc, en fait, c'est ça, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres questions que les femmes portent, en fait, parce qu'elles sont aussi concernées, elles sont aussi des patientes, et donc, elles font émerger des nouvelles questions. Donc, oui, il y a une prise de conscience avec ces nouvelles générations et cette féminisation des professions, aussi bien de spécialistes médecins que de chercheurs.
Alors pourquoi, malgré cette prise de conscience, est-il toujours plus difficile d'être soigné quand on est une femme que quand on est un homme ? Quels moments vous ont marqué lors de l'écriture de ce livre ? Ces questions et bien d'autres, nous vous les poserons dans la deuxième partie de notre entretien, qui sera diffusée demain. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignier, Juliette Chénion, Mathilde L'Oeil et Marion Ruault. Réalisation Olivier Duval, programmation musicale Gabriel Taïeb. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.